Alors, ici, dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 25, quand il parle ici de bonnes œuvres qui sont manifestes, dans 1 Timothée, chapitre 6, voilà la manière que ces œuvres se manifestent. Encore, ce n'est pas pour être vu des hommes, ni pour se glorifier de ses œuvres, mais c'est à la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi Paul écrit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. C'est intéressant, le nom de Dieu et la doctrine. Il y a la doctrine de la grâce, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui donne toute la gloire à Dieu. Et une bonne œuvre est une œuvre qui est manifestée à la seule gloire de Dieu. Et la doctrine, le mot veut dire enseignement, c'est la révélation de Dieu à travers la Bible. Nous sommes en train d'étudier la doctrine de Dieu, la doctrine de Christ. La doctrine de la grâce, et notez bien encore, c'est au singulier. Ce n'est pas les doctrines, il n'y a pas plusieurs. Toute véritable doctrine, on peut savoir que c'est la vraie doctrine lorsque ça donne toute la gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons renoncer cet enseignement, parce que c'est le mot doctrine, enseignement. Cet enseignement aujourd'hui qui donne une partie de la gloire à Dieu et une partie de la gloire aux hommes. Ceux qui prêchent le libre arbitre, par exemple, ne sont pas en train de prêcher la doctrine de Dieu. Ce n'est pas du tout biblique de dire que Dieu veut faire certaines choses, mais hélas, il dépend maintenant de l'homme de donner son approbation. En fait, c'est la doctrine de l'homme, des hommes, de dire que voilà le plan de Dieu, mais c'est à vous d'accepter ou non. Telle n'est pas la doctrine de la Bible. Alors, si nous croyons que toute la gloire revient à Dieu, c'est vrai non seulement dans le salut, mais c'est aussi vrai dans nos vies quotidiennes. Et souvent, nous n'aimons pas parler de la conduite de la grâce. Nous aimons parler de la doctrine de la grâce, mais quand il s'agit maintenant de la conduite de la grâce, les fruits que la grâce de Dieu produit dans l'enfant de Dieu, il y a certains maintenant qui s'opposent. Ils disent, ah voilà, on est en train de devenir maintenant légaliste. Parce qu'on parle maintenant de la conduite. Pourtant, ce qui est vrai en doctrine sera manifesté aussi dans nos conduites. C'est comme nos enfants qui vont à l'école. Quand ils reviennent à la maison, on demande, mais comment c'est la classe, les classes, l'enseignement? Et l'enfant dit, oui, tout va bien. Et l'enfant peut même dire qu'il est un bon étudiant. Mais où est la preuve? C'est dans les exercices. C'est dans les notes. Et si l'enfant s'oppose en disant non, mais on ne peut pas m'examiner, il suffit simplement de dire que je suis un bon étudiant. On ne raisonne pas comme ça. Il y a des preuves. Et c'est la même chose au sujet de la grâce de Dieu. Il ne suffit pas que quelqu'un confesse ou dise qu'il est chrétien, ou comme on dit, tout est par la grâce de Dieu, c'est vrai, mais comment est-ce que cette grâce se manifeste? D'abord, ça se manifeste en donnant toute la gloire à Dieu dans le salut. La grâce de Dieu se manifeste dans une véritable espérance, dans la personne de Christ et son œuvre accomplie au calvaire seul. On n'a pas d'espérance en dehors de Christ et son œuvre accomplie. Mais il faut dire que ça se manifeste aussi à travers notre comportement. Ça va être évident. La Bible dit que c'est du cœur que la bouche parle. Et nous avons des cœurs méchants. Nous avons des cœurs du péché. Donc, pour que même une bonne parole sorte de notre bouche, c'est une grâce. Mais si la grâce de Dieu est en nous, ça va se manifester non seulement à travers nos causeries, mais aussi nos conduites. Et notez dans 1 Timothée 6, et le verset 2, que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas. Sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Alors, on peut avoir peut-être un patron qui est comme nous, un objet de la grâce de Dieu. Alors, en ce qui concerne notre emploi et le travail que nous faisons, nous ne devons pas imaginer que puisque c'est un frère en Christ, alors on peut le traiter autrement qu'un patron. Non, un patron, c'est un patron. Lorsque nous sommes au travail et nous sommes en train d'œuvrer pour notre pain, travailler pour notre pain, si le Seigneur nous donne quelqu'un qui est un avec nous dans la foi, cela ne doit pas être raison pour nous maintenant de ne pas faire notre travail comme les autres et de simplement dire non, mais c'est un frère, donc on peut, nous sommes égaux en ce qui concerne la foi, il n'y a pas de différence. Oui, c'est vrai en ce qui concerne la foi, mais en ce qui concerne le travail, c'est comme Paul dit ici, le fait que c'est un frère et un fidèle par la grâce de Dieu, autant nous devons le servir mieux, puisque c'est un frère ou un fidèle, un bien-aimé en Christ. Il y a des années, ici à Shreveport, où je travaillais pour une femme qui est membre de notre assemblée, et elle a son emploi ici en ville, et quand je me suis déplacé pour venir à Shreveport, elle m'a embauché pour faire des travaux, surtout sur l'ordinateur, etc., pour son entreprise. Alors, pendant la semaine, elle était mon patron. Et donc, quand j'arrivais au travail, je devais me soumettre à ses ordres. Mais quand on vient maintenant à l'église pour l'adoration, elle devait se taire. Parce que ce n'est pas permis à la femme de prendre le devant en ce qui concerne la diligence du culte. Alors, pendant plus de 8 ans, on avait cette relation-là où pendant la semaine, c'était elle qui me donnait les ordres en ce qui concernait le travail. Mais lorsqu'elle venait à l'assemblée, elle devait se taire et apprendre la parole de Dieu de ma bouche et suivre ma direction. Mais puisque la grâce de Dieu est en elle, ce n'était pas un problème. Arrivé à l'assemblée, on ne parle pas de travail. On s'assoit tranquillement pour écouter la parole de Dieu. C'est lui qui dirige toutes choses. Alors, voilà un exemple de cette relation que nous pouvons avoir dans le monde. Il ne faut pas mépriser quelqu'un dans le monde, au travail, puisque c'est un frère, alors on peut faire ce qu'on veut. Non, il y a de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et voilà encore une manifestation de la grâce de Dieu dans de bonnes œuvres, qui fait que, étant des pécheurs, nous nous soumettons les uns aux autres pour la gloire de Dieu. Et c'est écrit dans le verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, notez la différence. Verset 1, la doctrine, toutefois que vous voyez la doctrine, il s'agit de la vérité en ce qui concerne Christ et Dieu, tel qu'il est révélé dans les Écritures. Mais quand il s'agit de ce qui est faux, c'est toujours au pluriel, parce qu'il y a plusieurs manières que les gens interprètent l'Écriture, et c'est pourquoi c'est écrit au pluriel. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et encore, à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors vous voyez comment ce passage nous apprend davantage les effets de la grâce de Dieu contre ceux qui sont des prétendants de la grâce de Dieu. Ils professent peut-être être enfants de Dieu, objets de la grâce, mais rien dans leur vie ne manifeste cette grâce. Voyez ce qui est écrit dans les versets 4 et 5. Ce sont des manifestations de la chair et non pas de la grâce de Dieu. Enflé d'orgueil. Ce n'est pas difficile de reconnaître quelqu'un qui prétend être enfant de Dieu, pourtant il est enflé d'orgueil. Nous avons tous ce péché en nous, l'orgueil, mais c'est la grâce de Dieu qui domine et qui nous amène à nous soumettre non seulement à Dieu en toutes choses, mais au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on trouve quelqu'un, quelle que soit sa profession, il dit qu'il est enfant de Dieu, mais on voit dans son comportement qu'il est enflé d'orgueil. Notez le témoignage de la Bible. Il ne sait rien. Ça veut dire c'est une fausse profession. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Je ne peux pas compter combien de fois à travers les années que je prêche l'Évangile, qu'il y a des gens qui viennent, ils s'asseyent pour un certain temps, et puis ils commencent à poser des questions. C'est écrit ici, la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. De telles personnes se manifestent comme des ennemis de la croix, parce qu'ils ne peuvent pas se soumettre à la parole. Si on ne fait rien que prêcher cette parole aux hommes, pourtant, à la fin, ils n'ont que des questions. Et ces questions ne sont pas pour apprendre, mais c'est pour contredire. Une telle personne, on peut savoir immédiatement que ce n'est pas l'Esprit de Dieu en elle, cette personne, parce que ceux qui sont l'objet de la grâce de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu ouvre le cœur, on devient attentif maintenant à cette parole, soumis à la parole, soumis les uns aux autres dans l'assemblée, aux autres qui sont véritablement enfants de Dieu. Mais quand il y a quelqu'un qui ne cesse de questionner, J'ai eu des gens comme ça, une fois fini de prêcher, ils viennent à côté et disent, oui, j'ai entendu ce que tu as dit au sujet de ce verset, mais voilà un autre verset que je crois contredit ce que tu dis. Mais les Écritures ne se contredisent pas. Chaque Écriture, chaque verset de la Bible explique l'autre. Alors s'il y a des gens qui trouvent toujours des contradictions, comme il y en a qui veulent toujours combattre contre la grâce souveraine de Dieu, ils sont toujours en train de chercher des versets qui semblent supporter leur doctrine d'homme et les œuvres. Ils disent, oui, mais voilà, un tel verset. Ce sont des gens qui ont la maladie des questions oiseuses et ils aiment disputer de mots. Et c'est écrit d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. C'est mieux que de tels gens s'en aillent que de rester dans une assemblée et tôt ou tard, ils vont partir. Il ne faut pas chercher à raisonner avec eux et imaginer que ce sont des enfants de Dieu. Non. Déjà par leur comportement, ils sont en train de manifester une vie, une manière de raisonner qui est contraire à la grâce de Dieu. Et quelles que soient les œuvres qu'ils vont appeler de bonnes œuvres, parce qu'ils mettent l'accent sur les œuvres, en réalité, ce sont des mauvaises œuvres. Et c'est de telles que Christ dira un jour, partez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils sont fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils croient. Mais ils manifestent par là qu'ils sont, comme c'était écrit ici, ils ne savent rien. Mais vous voyez, dans le verset 5, de vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Déjà, par leur manière de parler, on peut savoir que ce sont des gens qui sont corrompus d'entendement. Cela veut dire, ils sont toujours dans leur péché. Quand c'est écrit, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, notez, privés de la vérité. Peut-être qu'ils professent être enfants de Dieu, mais ce ne sont pas enfants de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Quand c'est écrit privé de la vérité. Et notez, croyant que la piété est une source de gain. Il y a pas mal de gens qui profitent d'un soi-disant ministère. Ils prétendent servir Dieu et ils se lèvent devant des hommes pour attirer l'attention sur eux-mêmes. C'est de cela que c'est écrit ici, ils croient que la piété est une source de gain. Nous savons que la véritable piété, le mot signifie révérence pour Dieu. Cette piété qui est le fruit de la grâce de Dieu n'a qu'un seul but, et c'est la gloire de Dieu en toutes choses. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Alors, c'est par là que nous voyons la grâce de Dieu, parce que quelque succès que nous pouvons avoir, soit dans la vie, ou même dans le ministère, nous ne pouvons pas dire que tel ou tel c'est notre converti. Quand on entend des gens en train de parler de cette manière, on sait que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu donne la gloire à Dieu seul, et non pas à nous, ou bien l'autrui. Alors, en quelque sorte, ça c'est le résumé de ces versets, la somme de ce que ces versets nous enseignent au sujet de bonnes œuvres. Maintenant, je voudrais prendre le temps qui reste pour regarder plusieurs versets de la Bible et ce que la Bible dit au sujet de bonnes œuvres, parce que nous ne devons pas éviter le terme. Je sais que le salut est par la grâce de Dieu, mais si l'arbre est bon, ça produit de bons fruits. Alors, l'arbre, c'est Christ, c'est pas nous. Le fruit que Christ produit dans ses enfants, c'est ça qu'on appelle de bonnes œuvres. Ça ne provient pas de nous, mais c'est de Dieu. Alors, voyons quelques exemples de cela. Dans Jacques, chapitre 3, et le verset 17, nous avons une explication ici des œuvres qui sont appelées de bons fruits. Pourquoi c'est de bons fruits? Le fruit ne se produit pas lui-même. Ça dépend de la racine. Mais ici, la racine, c'est Christ. C'est son œuvre à la croix. Et nous savons que de tels fruits ou bonnes œuvres viennent de Dieu. Notez bien Jacques chapitre 3. On peut voir cette comparaison commençant dans le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, notez, avec la douceur de la sagesse. Alors, si quelqu'un est enflé d'orgueil et il attire l'attention sur lui-même, c'est évident que l'esprit de Christ n'est pas en lui. Nous avons toujours ces tendances. Nous sommes des hommes orgueilleux. Nous avons une chair pleine de péchés. Mais c'est la grâce de Dieu qui domine. C'est l'esprit de la grâce qui domine et nous dirige. Alors, pour cela, ça affecte notre conduite. Ici, c'est écrit une conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Vous voyez comment cela complimente le verset que nous avons étudié dans 1 Timothée chapitre 6. Où ceux qui ne sont pas véritablement enfants de Dieu, qui ne sont pas soumis à la doctrine qui est selon la piété, ils sont enflés d'orgueil, ne savent rien, et ils sont leurs disputes de mots naissent d'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Tout cela, c'est à cause de la racine. Quelle que soit leur profession, ce n'est pas enraciné dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, le verset 15 de Jacques 3 est clair. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, et notez bien, diabolique. Tout ce qui n'est pas en Christ est du diable, c'est diabolique. Il y a pas mal de gens dans la religion et dans le christianisme qui sont des prétendants. Ils professent être à Christ, mais avoir leur manière d'agir, en fait, ils appartiennent toujours au diable. C'est écrit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors, de bonnes œuvres, ce sont des bonnes actions, mais encore, produites par la grâce de Dieu, l'esprit de la grâce de Dieu. Donc, verset 17 de Jacques 3, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, et notez bien, de bons fruits, exempts de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Notez bien l'ordre, c'est important. Le fruit de la justice, quelle justice? C'est la justice de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Le fruit, c'est ce que l'Esprit de la grâce de Dieu maintenant sème, c'est une semence, dans les cœurs et dans la vie de ceux pour qui Christ est mort. Ouais, cet ordre est important. Le fruit de la justice. Il y a beaucoup qui cherchent à être juste devant Dieu à travers leurs œuvres. Mais le fruit ne peut jamais produire cette justice. Ouais. C'est la justice qui produit le fruit. Donc, si Christ a versé son sang pour un pécheur et a établi, a réconcilié la paix avec Dieu à travers sa mort, ça va être évident dans le cœur d'un tel pécheur par l'Esprit de la grâce de Dieu, parce que l'Esprit ne se révèle pas en n'importe qui. L'Esprit de Dieu agit uniquement dans les cœurs de ceux pour qui Christ est mort. Donc c'est pourquoi c'est appelé ici le fruit de la justice. Et c'est semé dans la paix. Nous n'avons aucune raison de lutter avec d'autres pécheurs, comme si nous avons quelque chose à faire pour les impressionner, que nous sommes mieux qu'eux. Non, nous sommes des pécheurs comme tout autre. Et la raison pour laquelle nous pouvons vivre en paix, c'est à cause de cette paix que Christ lui-même a déjà établie pour nous devant Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin de courir comme les autres qui n'ont pas cette connaissance. Et c'est pourquoi c'est écrit, c'est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous recherchons la paix avec ceux qui sont véritablement enfants de Dieu et non pas la guerre. Alors voilà encore comment les bonnes œuvres sont attachées, sont le fruit de l'œuvre de Christ, de Dieu à notre égard. D'abord, Dieu le Père, qui nous a choisis depuis l'éternité pour être ses enfants. Et puis, Dieu le Fils, qui est venu pour établir cette justice et verser son sang, payer la dette, afin que les pécheurs que le Père a choisis soient réconciliés avec lui. Et puis, avec le temps, maintenant, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu le Père, est envoyé dans le cœur de tel pécheur pour qu'il soit régénéré, qu'il soit attiré à la vérité qui est Christ et qu'il soit enseigné selon la vérité qui est révélée dans les Écritures. Voilà comment maintenant on voit une différence établie entre ce que nous étions lorsque nous étions encore dans les ténèbres par rapport à ce que nous sommes maintenant par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, ce sont des fruits qui sont l'effet de cette grâce de Dieu. Regardez aussi dans Matthieu chapitre 3 et le verset 8. Voilà encore la manière que c'est décrit de bonnes œuvres dans les Écritures. Matthieu chapitre 3 et le verset 8. Encore, ce n'est pas des fruits que nous produisons, mais ce sont des fruits qui sont les résultats, comme c'est écrit ici, de la sémence de ce que Christ a déjà accompli à Calvaire. Nous ne sommes pas en train d'ajouter par nos œuvres à l'œuvre de Christ, non. C'est le fruit de ce qu'il a accompli. C'est pourquoi, dans le message de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, le verset 8, il prêchait aux pharisiens. C'était des hommes qui se voyaient justes devant Dieu par leurs œuvres. Et vous pouvez voir ce que Jean-Baptiste, dirigé par l'Esprit de Dieu, leur a dit dans le verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils étaient des hommes religieux. À leurs propres yeux, ils se croyaient justes devant Dieu par leurs œuvres. Pourtant, Jean-Baptiste les dénonce étant des races de vipères. Imaginez un serpent, que ce soit un petit serpent, ou bien ça grandit pour devenir un grand serpent, c'est toujours de la même nature. Il y a des serpents qui ont une bonne couleur, et peut-être à l'apparence, quand on les voit, on imagine que ce sont des créatures qui sont belles à voir, ouais. Mais Jean-Baptiste les dénonce ici comme étant toujours une race de vipères. Et qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cela veut dire l'homme avec toutes ses œuvres produisent de lui-même, n'a pas encore échappé à la colère de Dieu. Ce n'est pas de cette manière qu'on échappe à la colère de Dieu. La seule manière d'échapper à la colère de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Voilà une bonne œuvre. C'est l'œuvre de Christ à l'égard du pécheur. C'est par sa mort à la croix qu'il a satisfait toute la justice de Dieu. Et alors Dieu, ensuite, maintenant, a déclaré juste chacun pour qui il est mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Et tous ceux pour qui Christ est mort ne sont pas sujets de la colère de Dieu, parce que Christ a déjà pris cette colère en payant la dette à la croix. Mais tous ceux qui ne sont, pour qui Christ n'est pas mort, ils sont toujours sous la colère de Dieu, pour toujours. Quel que soit les œuvres qu'ils imaginent vivre ou produire, que dans leurs yeux ils appellent de bonnes œuvres, ce ne sont pas de bonnes œuvres, ce sont de mauvaises œuvres. Alors c'est pourquoi Jean-Baptiste dit dans le verset 8 de Matthieu 3, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » La repentance, c'est d'avoir un cœur changé, tourné vers Christ, vers Dieu, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Le mot repentance et foi sont synonymes. C'est la même chose. On ne peut pas avoir la foi sans la repentance. On ne peut pas avoir la repentance sans la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est de se reposer uniquement sur son œuvre accomplie pour le pécheur. Rien en nous. Nous n'avons pas en nous quelque chose qui peut nous recommander à Dieu pour le salut. Non, nous sommes des pécheurs corrompus. Nous avons, comme c'est décrit dans 1 Timothée 6, ceux-là, nous étions nous-mêmes pendant un temps, ceux qui avaient l'entendement corrompu. On avait la parole peut-être, on lisait la parole, mais on ne voyait pas Christ. Nous étions perdus. Et il a fallu que Dieu lui-même, dans sa grâce et par son esprit, nous ouvre le cœur et nous donne l'entendement pour connaître Christ. Alors, mais notez dans le verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ce n'est pas le fruit qui amène à la repentance, mais c'est la véritable repentance qui produit ce fruit. Quel fruit? La soumission entière à Christ, et de rester sur son œuvre accomplie seule pour le salut, et non pas quelque chose en nous-mêmes. Alors, il y a beaucoup de ces versets-là qu'on pouvait trouver et lire dans les Écritures qui décrivent davantage ce qui sont les bonnes œuvres. Mais je vais noter un dernier verset pour cette étude, et ça c'est dans Philippiens chapitre 1, et le verset 11. Si vous voulez regarder là avec moi, Philippiens chapitre 1 et le verset 11. Les Écritures ne se contredisent pas. Ce qui est écrit dans un passage, dans une partie, sera vrai dans l'autre. Mais vous voyez ici dans Philippiens chapitre 1. Commençons dans le verset 9. C'est écrit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et notez bien, rempli du fruit de justice. Mais notez, qui est par Jésus-Christ a la gloire et a la louange de Dieu. Si vous voulez une bonne définition de bonnes œuvres, voilà ce qui est écrit. Ce sont des œuvres qui sont, verset 11, le fruit de justice qui est par Jésus-Christ. De quelle justice s'agit-il ici? Il s'agit de cette justice, parce que quand on parle de justice, c'est un terme légal. Alors, ça parle de l'œuvre de Christ qu'il est venu accomplir à l'égard de ces pécheurs que Dieu le Père lui a donné. Si nous sommes sauvés, c'est un salut juste. Devant un Dieu juste, Dieu ne pouvait pas mettre à côté sa justice pour sauver qui que ce soit. Et c'est seulement dans l'œuvre de Christ que cette justice est satisfaite. Ouais. C'est par Jésus-Christ. Et le fruit de cette justice, c'est ce qui est manifeste à travers le temps, lorsque l'esprit de la grâce agit dans le cœur de ceux pour qui Christ est mort, le fruit de cette justice se manifeste en eux, mais c'est toujours par Jésus-Christ. Et c'est toujours à la gloire et à la louange de Dieu. On ne va jamais trouver quelqu'un se donner la gloire là où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de la grâce œuvre. Non, toute la gloire revient à Dieu. C'est à la louange de Dieu. Nous devons toujours dire comme l'apôtre Paul, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Nous n'avons pas d'autre témoignage que ça. Si quelqu'un nous demande de rendre témoignage, voilà ce qui va sortir de notre bouche. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alors cet esprit de discernement dont l'apôtre Paul a écrit dans le verset 10, des choses les meilleures, il s'agit là de toutes les évidences de la grâce de Dieu en nous, le discernement des choses meilleures. Ce discernement ne vient pas de nous. Et la manière que c'est écrit, c'est afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. La manière d'être pur et irréprochable pour le jour de Christ, ce n'est pas en nous, c'est en lui. C'est d'être en Christ. C'est la seule manière. Ce n'est pas par nos œuvres que nous allons nous rendre purs et irréprochables pour le jour de Christ. La manière d'être pur et irréprochable, c'est d'avoir sa justice imputée à notre compte, et que devant Dieu, devant les hommes, c'est lui qui est notre justice, parce que nous n'avons pas de justice en nous-mêmes. Alors, voilà le message que le Seigneur m'a donné à apporter aujourd'hui. Je voudrais maintenant m'arrêter là et donner le temps à chacun, selon ce que le Seigneur lui-même dirige, de peut-être porter quelques éclaircissements aussi au sujet du passage que nous avons étudié dans 1 Timothée chapitre 5 et 6. Et ces versets aussi soulignant ce que sont les bonnes œuvres, qui sont les bons fruits de l'œuvre de la grâce de Dieu pour nous, en Jésus-Christ, par lui et en nous. Alors, est-ce qu'il y a quelques-uns qui veulent aussi commenter?
Oui, je voudrais, effectivement, j'apprécie vraiment beaucoup l'application que l'apôtre Paul a fait au chapitre 6, au chapitre 6 de Timothée, qui constitue une explication vraiment, comme vous venez de le faire, des derniers versets là. Parce qu'en réalité, c'est là quelque chose que nous apprenons et que nous devons apprendre à imiter. Où l'apôtre disait que les bonnes œuvres, il dit au verset 25, il dit de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont point ne peuvent rester cachées. Et avant cela, il disait, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Voilà. Et ce que je veux ajouter, c'est le fait que le jugement que l'on peut faire de quelqu'un doit être fondé, comme l'apôtre Paul vient de le faire et que quelqu'un vient d'expliquer là, sur la motivation cachée de ce que quelqu'un fait ou ne fait pas, de bien ou de mauvais. Parce qu'en réalité, quand deux personnes peuvent faire la même chose, qui ont les mêmes qualités, c'est-à-dire la personne peut donner à l'œuvre de Dieu, par exemple, même montant et avec la même apparence, et ils seront deux, mais cette œuvre peut être jugée de mauvais ou de bon selon la motivation cachée qui s'en découle à la suite des temps. Donc en réalité, le péché est défini ici par la motivation cachée qui est derrière l'action que chacun, l'acte que chacun pose ou le don que chacun fait. Donc, ça ne se découvre que dans la suite du temps. Quelqu'un, par exemple, qui est motivé par l'œuvre de la grâce de Dieu, qui est motivé par la gloire de Dieu dans son cœur et qui a agi bien, ne peut pas finalement commencer par se glorifier et l'orgueil. Et cela n'est donc pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc en réalité, ce n'est pas la motivation qui est cachée dans le cœur que ce que quelqu'un fait est défini comme mauvais ou bon. Et quand la motivation est mauvaise, si c'est fondé sur l'égoïsme, les mérites de l'homme, fondé sur l'homme, c'est sur le fruit, ça se remarque plus tard quand cette personne va commencer par se glorifier. Si quelqu'un est motivé par la grâce de Dieu, il est impossible qu'il finisse par se glorifier de ce que la grâce de Dieu l'a amené à faire. Et de la même manière pour la gloire de Dieu et les mérites de Christ. Donc en réalité, Dieu ne nous utilise pas comme un robot. Et nous aussi, nous n'agissons pas en nous fondant sur la chair, sur la loi, sur les hommes. Ou si nous le faisons, nous allons finir par nous glorifier dans la chair et devenir légalistes. Mais quand, comme nous venons de le voir, et l'œuvre est motivée par la foi, ça devient l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc c'est nous, quand nous sommes dans la foi et notre foi est fondée sur la puissance de Dieu, naturellement, notre œuvre ne reste pas se manifester. Et notre foi aussi se manifeste comme étant fondée sur Dieu. Et cela avec toute la puissance. Nous avons l'exemple de la veuve dans l'évangile, par exemple, où lui mettait de pièce tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qui lui était nécessaire. Et les autres mettent le même. Et plutôt, c'est Christ qui observe la motivation cachée de chacun dans ce qu'il donne. Et finalement, il a dit, cette dame a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car les autres ont donné de leur superflu, et sûrement, certainement pour s'en glorifier, Christ le reconnaît, mais celle-ci a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui était nécessaire pour vivre. Et là, on constate que la motivation cachée de cette dame-là, c'était réellement Dieu. Elle voit toute sa vie en Dieu, elle ne réserve rien pour lui-même. Donc aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup qui font de bonnes œuvres, qui font beaucoup de choses. Et par la suite, leur péché se révèle parce qu'on constate que leur œuvre était vraiment mauvaise, d'autant plus que la motivation qui les conduisait avant commence par se manifester. Il y a d'autres aussi qui font des choses, mais motivées par la foi. Peut-être quand ils le faisaient, on peut dire, ah, c'est parce que c'est sur la chair, sur la loi, c'est par crainte. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il agissait réellement par la foi. Ouais. Donc, l'apôtre Paul, dans le chapitre 6, a commencé par définir en réalité cette attitude-là, qui consiste à agir soit parce qu'on a un maître frère, ou bien on est un maître frère, ou on est un esclave qui est frère. Et la motivation, si ce n'est pas Dieu, la personne ne commence pas à dire, bon, c'est un frère, donc je n'ai pas besoin de le respecter. Alors que si réellement il respectait Dieu dans son cœur et dans le frère, il aurait la même motivation pour obéir à la foi, même si le frère n'est pas frère de la même manière si le frère était frère. Donc en réalité, quand on parle d'une œuvre n'est véritablement, c'est ce que je veux souligner, une œuvre n'est véritablement mauvaise, si la motivation qui est derrière cette œuvre n'est pas la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, les mérites de Christ seul, et les seuls mérites de Christ et par la foi fondée sur Dieu seul. Si ce n'est pas comme ça, ça peut paraître bonne, mais à la suite du temps, ça va se découvrir. Si c'est ça, avec le temps, on constatera que cet homme serait rempli d'humilité et serait resté soumis à la grâce de Dieu. Tandis qu'il y a l'œuvre de la justice, ça veut dire que c'est motivé par la justice de Christ, par la foi. Vous voyez? Donc, c'est de la même manière, effectivement, comme l'apôtre l'a fait, et comme vous venez de souligner, que nous prêchons les œuvres de la foi. Il faut faire une différence entre l'œuvre de la foi et l'œuvre de la loi. L'œuvre de Dieu dans la foi, c'est une œuvre motivée par la grâce de Dieu que le croyant dans la foi et qui est suscité manifeste. Et cela reste sans mesure. On ne peut même pas comparer à ce que les guests disent que ceux qui veulent gagner du gain peuvent faire pour s'attacher à un ministère apparemment. Ça ne peut pas être comparé à l'esclave ou à la punition que l'on craint pour essayer de faire quelque chose pour plaire aux hommes. Donc il y a une différence entre ce que je fais pour plaire aux hommes, ce que je fais pour ne pas être puni, ce que je fais pour être glorifié par les hommes. Il y a une différence. Ça là ne dure jamais et n'est jamais sincère. Et ce que je fais parce que je suis motivé par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par l'esprit qui fait briller en moi la puissance de Dieu, cet homme peut ne pas avoir les mêmes qualifications que celui qui est soumis à la loi. Mais en réalité, elle est plus bonne, sinon elle est la seule œuvre bonne par rapport à l'œuvre que l'autre qui est soumis à la loi est en train d'accomplir. Et c'est là le discernement. Nous ne devons pas simplement apprécier un homme dans ce qu'il fait ou discréditer un homme dans ce qu'il ne fait pas, tout simplement parce que apparemment, il y a des choses qui sont agréables et qui paraissent, je dis bien paraissent, conformes à la loi, à la légalité ou bien à la grâce. C'est dans la suite de temps que vous allez voir cet homme qui n'était pas motivé par la foi, il va commencer par s'enorgueillir et on saura que c'était pour ça qu'il était de faire bien apparemment et parfois même, ça finit par se montrer selon la chair. C'est ainsi que les péchés se découvrent dans la suite des temps. Ça veut dire la motivation qui est derrière une bonne chose que quelqu'un est en train de faire, ça se découvre dans la suite des temps et se manifeste comme péché. Et de la même manière, les bonnes œuvres, la motivation qui est cachée derrière une œuvre apparemment bonne, ça se manifestera dans la suite des temps, puisque la personne va commencer par se glorifier d'avoir fait, au lieu de rendre grâce à Dieu qui l'a motivé à faire en Jésus-Christ. Donc, je veux vraiment souligner cet aspect pour que nous usions réellement de discernement pour ne pas apprécier les hommes qui fondamentalement ne vivent que pour leur propre gloire, au dépens de ceux-là qui vivent seulement pour la gloire de Dieu, mais peut-être apparemment ne sont pas comme ce que tout le monde est en train d'applaudir.
Voilà. Merci bien, frère, c'est bien précisé et aussi ça confirme réellement ce que nous voyons dans ce passage que nous sommes en train d'étudier. Ce n'est pas seulement ce qui est vu à l'extérieur qui fait que ça soit une bonne œuvre, parce que comme tu dis, si la motivation du cœur, si ce n'est pas produit par la grâce de Dieu à cause de l'œuvre de Christ, donc ce n'est pas une bonne œuvre et ça va se manifester, comme tu disais, à travers le temps. Lorsque les gens s'enorgueillissent et ils commencent à se donner la gloire. Oui?
Moi, je dirais que c'est véritablement un privilège de toujours partager l'Évangile et de nous donner aussi des points de vue. Alors, comme Pasteur tu l'as souligné, et puis le frère Aurélien aussi également, je pense qu'au niveau des œuvres, il faudrait que nous distinguions les œuvres bonnes et ceux qui sont manifestés par au niveau de la loi. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, véritablement, c'est les œuvres que Dieu a, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui produit du bon fruit, ça doit être manifesté également. Parce que on ne peut pas se dire, comme Jacques l'a dit, on ne peut pas se dire enfant de Dieu souvent, et puis il y a des frères qui nous entourent, qui sont aussi dans le besoin, et puis qui nous demandent des services, ou bien qui nous sollicitent, et qu'on fasse ces choses-là dans l'orgueil vis-à-vis aux yeux des gens pour dire qu'on a fait des actions bonnes. Donc ça, c'est des choses à véritablement éviter. Mais moi, ce que le pasteur a dit au niveau de, à partir du verset 25 et de 1 Timothée, et du premier verset 6, alors, dans le contexte historique, effectivement, quand je lisais ce passage, je n'avais jamais, encore une fois, estimé que c'était comme ça, c'était dans ce sens-là, parce que dans la religion, on nous disait, oui, de respecter les maîtres, tout ça, sans toutefois bien expliquer dans quel contexte. Donc aujourd'hui, j'ai vu le privilège, c'est pour ça que vraiment quand on n'a pas bien enseigné, que les gens enseignent un autre évangile, il y a beaucoup de confusion qui se produit. Alors, il était très bien révélé ici que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soit pas calomnié. Voilà. Donc, et puis au verset 2 aussi, et que ceux qui sont des croyants, pour maître, ne les méprisent pas, sous le prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent, d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés et qui reçoivent leur bon service. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est ça qui m'a beaucoup interpellé là-dessus, parce que il y a des frères qui sont soit des opérateurs économiques et puis qui emploient des croyants. Donc il faut ces frères-là, il faut les regarder comme dans le contexte du travail comme des patrons, mais il ne faut pas dire que puisque vous êtes des enfants de Dieu, il faut saboter de toute façon c'est mon frère, je ne peux pas bien faire son travail, tout ça. Alors c'est des choses qui peuvent arriver et que Pasteur a bien fait de souligner ça concernant toi-même ta propre illustration avec la dame que tu travailles aux États-Unis. Et il y a des choses comme ça que l'Évangile ressort pour nous mettre vraiment sur les rails. Vraiment, je suis vraiment content pour cet enseignement. Et ce que Aurélien a vraiment bien développé aussi. Et tout ça, c'est ça qui nous rapproche et qui fait que nous fassions vraiment attention et que nous ne soyons pas vraiment en feu d'orgueil, mais en toute humilité. Et que ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, nous fassions des bonnes œuvres. Voilà. Voilà, moi, je voulais m'arrêter là.
Très bien, très bien. Oui, c'est
allô.
C'est bien.
Allô.
Oui.
Allô?
On t'entend? Oui?
Oui, allô? Oui, d'accord.
Et vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur pour ce message. Parce que si je vois mon cas, moi je suis ici d'une religion qui tient beaucoup vraiment à la société, surtout au bienfait dans la société. Alors surtout mon contact avec les musulmans me permet souvent de vivre avec eux, c'est-à-dire d'être dans le groupe, dans leur société, de les intégrer, enfin souvent de mieux prêcher et de leur montrer aussi la vérité de l'évangile. Bon, ce message-là vraiment m'aide beaucoup. Mais moi, je me demande aussi réellement si ce que certains appellent les œuvres de bienfaisance, c'est-à-dire les actions de grâce, là, si ça ne devient pas réellement une abomination pour eux. Alors souvent, nous faisons réellement le bien pour notre propre orgueil. C'est-à-dire, c'est ça la société. Et si je dis que ça peut être une abomination, si je vois par exemple, aujourd'hui dans la politique, tu vas voir, celui qui veut être président, celui qui veut être député, celui qui veut être maire, il envoie des sucres, de l'huile, de riz, dans des mosquées pour les distribuer. Mais ils veulent toujours qu'on dise leur nom. Mais ça, c'était des objectifs mondains qu'on vit, qu'ils visent. Hein, des objectifs vraiment pour leur propre gloire, c'est-à-dire pour leur réussite. Et je ne vois en cela réellement aucun intérêt attaché à Dieu. Vraiment, c'est ce que je voudrais réellement surtout vous dire. Ce message-là est vraiment bien, parce que le bien fait, quand ça vient d'un cœur sincère, et c'est ça qui est vraiment bien. Et le monde, nous avons réellement besoin de prêcher pour que le monde comprenne réellement ce que c'est. Parce que c'est l'islam. L'islam est basé sur ça. Hein. Vraiment, l'islam est basé sur cela. Et dans tous les... On raconte ça toujours. Mais nous devons réellement montrer que la bienfaisance, ça vient de Dieu. Et de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Amen. Ce que tu viens de dire au sujet des musulmans s'applique aux assemblées, soi-disant chrétiennes, en profession, le christianisme, beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. Quand on demande aux gens de rendre témoignage, ils se lèvent, ils rendent témoignage, ils donnent par leur bouche, ils donnent la gloire à Dieu, à Christ, mais on voit à travers le témoignage que c'est une manière de s'attirer la gloire. Et tout cela, les Écritures dénoncent. Je pensais à Matthieu chapitre 6, lorsque Koulibaly parlait tout à l'heure, où Christ a dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues. » Voilà le témoignage de Dieu contre tous ceux qui font profession, mais qui veulent s'attirer la gloire. Ce sont des hypocrites. Et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, c'est-à-dire ils reçoivent l'approbation des hommes, mais non pas de Dieu. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ça, c'est intéressant. Même si les autres ne remarquent pas que nous-mêmes, nous ne faisons pas note de ce que nous avons fait. Ouais. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, ça revient encore à ce que nous avons déjà vu, que de bonnes œuvres sont celles qui sont produites par Christ en nous, à travers son esprit, à cause de son œuvre accomplie au calvaire, et comme le frère a dit, notre motivation, c'est que la gloire revient à Christ et à Christ seul. Merci bien que le Seigneur nous donne cette grâce toujours de regarder vers lui. Une œuvre produite de nous-mêmes n'est qu'une fausse œuvre, une mauvaise œuvre chaque fois, mais une œuvre qui est produite par l'Esprit de la grâce de Dieu, nous savons que c'est une bonne œuvre parce que toute la gloire revient à Christ et Christ seul.